Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 76 du podcast Touchdown Actu, dernier épisode de la saison en direct sur Dailymotion et sur touchdownactu.com. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour votre heure de NFL à mes côtés pour la dernière fois de l'année. Il est là également, c'est Raphaël Masmejean.
Salut à tous.
Il est là également, c'est Raphaël Masmejean, ça rime.
Ouais,
vu, c'était pas mal. À la technique, il a des étoiles dans les yeux, il est heureux comme tous. C'est Camille Sarabène. Salut Camille.
Salut.
Bien fêté la victoire ?
Ouais.
Ouais, tranquillement.
Il aura atteint des taux d'alcoolémie, à ce qui paraît, dans les rumeurs.
Ah
on
ouais ?
On dira rien.
C'est vrai ? Non, on va pas balancer là-dessus. Au programme de cette dernière mission de l'année, on passe en revue le Super Bowl qui a vu la victoire des Seahawks sur les Broncos. On va aussi parler de l'avenir des deux équipes. On va parler des trophées de la saison, du Hall of Fame, vos questions, les tops, les flops de la saison, résultats des pronostics et un coup d'œil vers la saison prochaine. C'est un gros programme, c'est en direct. Vous êtes sur le chat, ça marche, vous êtes là, vous allez pouvoir donner vos réactions et poser des questions pendant la séquence questions. Gros programme. Et c'est parti avec du son de Seattle pendant toute l'émission. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking, little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway. Mike est mort, puisqu'il était là, je crois qu'il était là, ouais, il était dans le vestiaire. Bon, Camille confirme. Denver Broncos 8, Seattle Seahawks 43, c'est le résultat du dernier match de la saison, le score complètement dingue du Super Bowl 48 XLVIII, un match dominé de la tête et des épaules par les Seahawks. Premier point sur un safety après 12 petites secondes et une domination totale dans tous les compartiments du jeu. Malcolm Smith MVP grâce à une interception qui fait très mal en début de match, dans le deuxième quart-temps en tout cas. Oui. Raphaël, il n'y a pas eu de match, la victoire des Seahawks n'est pas étonnante, mais la manière. Alors là, par contre, on n'aurait pas pu prévoir ça.
Effectivement, voir les Seahawks gagner, c'était pas forcément une surprise. Mais alors, les voir dominer autant ce match de cette manière-là, être impeccable en attaque, être monstrueux en défense, complètement faire dérouter Peyton Manning et son attaque. Certains avaient peut-être quelques doutes sur l'attaque de Peyton Manning, mais enfin, à ce point-là, je pense pas. Et puis, voilà, un match à l'image de finalement du safety en tout début de match. Enfin, surprenant, quoi. On ne s'attendait pas à ce niveau-là de la part de Seattle.
Ouais, c'est incroyable parce qu'il n'y a jamais eu de match. Il n'y a vraiment jamais eu de match.
Ah, oui.
On n'est jamais rentré dans cette rencontre. On n'a jamais eu l'impression que c'était serré. On n'a jamais eu l'impression que Denver pouvait revenir. Ouais. Et dès le premier safety, quoi, tu te dis « Ouf, c'est bizarre ». Tu te dis « Il y a un truc ».
Oui, c'est ça. Premier safety derrière encore… quand derrière les Seahawks marquent juste un field goal, on se dit 5-0, on va avoir le premier vrai drive de Peyton Manning, peut-être qu'il peut se passer un truc. Et là, Dex Shula, enfin, se finit par un punt, je crois, ou une interception, je ne sais plus. Enfin, on comprend que voilà, la soirée va être vraiment cauchemardesque pour les
Alors,
Broncos.
Après, je sais que c'est pas toujours drôle. Je sais qu'on a eu beaucoup de remarques et je sais que sur le chat, vous allez nous dire ça, que c'était pas un match passionnant, que c'était un mauvais Super Bowl, etc. Après, il faut quand même aussi apprécier ce qu'on a vu de la part de Seattle, qui est une démonstration dans tous les secteurs de jeu.
C'est ça. C'est, on a vu un peu, comme tu l'as dit, sur les réactions, sur l'article, etc. Beaucoup n'ont pas aimé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu de suspense, il faut le reconnaître. Maintenant, moi, j'ai vraiment apprécié de voir une équipe maîtriser son sujet de A à Z.
C'est ça, c'est aussi beau de voir une démonstration pareille de temps en temps.
Les dernières années, on était vraiment gâtés niveau suspense avec des drives à la dernière seconde. Bon, de temps en temps, de voir une équipe qui domine à ce point-là, je trouve ça aussi sympa.
La démonstration de la défense est fabuleuse. Je veux dire, c'est, y a de la pression sur Manning, il y a une couverture énorme.
Il y a
énorme,
tous les éléments.
Il n'y a pas un plaquage raté. Mmh. Moi, c'est les plaquages. Dès qu'un receveur captait le ballon, il ne pouvait pas faire 10 cm.
Non, c'est ça.
Il y avait toujours quelqu'un sur son dos, il n'y avait pas un plaquage raté, c'était fabuleux. Et il y a en plus, il y a un touchdown sur équipe spéciale, il n'y a pas un seul ballon perdu en attaque. Ouais. C'est un match parfait, quoi. Donc c'est aussi une œuvre d'art, quoi, qu'ils nous ont fait.
C'est vraiment, c'est ça, c'est une œuvre d'art collective. Toutes les phases de jeu ont été impliquées pour la victoire. Et comme tu l'as dit, en défense, et c'est là-dessus qu'ils ont fait la différence toute cette saison, c'est au niveau des plaquages. Tu les vois jamais rater un plaquage du côté de Seattle, alors que les Broncos, ça a été. Un enchaînement de plaquages ratés, quoi.
Gizmo69 qui nous dit le play calling était top. C'est vrai que j'ai oublié ça aussi, mais les quelques courses de Harvin qui sont distillées ici et là, la première fait super mal en plus derrière. Enfin, c'est superbement joué, tout est géré au top. Vraiment, tout était géré au top. La grande question, est-ce qu'on blâme Peyton Manning?
Bah, un peu quand même, parce que c'est aussi le quarterback, c'est son rôle de porter son équipe, d'aller de l'avant. Faut le blâmer un peu maintenant, il y a d'autres facteurs. Il a une ligne qui a été complètement à la rue sur ce match-là. Sa ligne offensive s'est jamais fait bouffer comme ça cette saison. À mon avis.
On avait dit que Chris Clark était un des facteurs X qui serait attaqué parce que Clady n'était pas là.
C'est ça, et je pense qu'on en avait un peu parlé. Les Broncos cette saison n'avaient finalement pas affronté de défense à ce niveau-là. Et peut-être que ça a fini par payer parce qu'ils ont rencontré des défenses pas si fortes que ça cette saison. Et là, ils sont tombés vraiment sur un os. Et entre la pression et la couverture, voilà, Manning, en plus, il a des fois ses receveurs, Demarius Thomas qui fait un fumble tout seul, il court avec la balle, puis tout d'un coup, il la perd tout seul, on ne comprend pas trop comment. Enfin, Manning n'a pas été aidé par ses coéquipiers, mais en même temps, on attendait aussi qu'il pousse un peu plus cette équipe.
Bon, il y a une part des deux, il est le quarterback, c'est censé être le grand leader de cette équipe, c'est censé être celui qui gère tout, qui est magnifique. Donc il y a une petite part. Il fait la plupart de ses stats de toute façon quand le match sont finis. Il a des bonnes stats hein, relativement. C'est 34 sur 49, 280 yards, un touchdown, deux interceptions. C'est pas assez standard, mais dans les mêmes conditions, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui auraient fait mieux face à une telle défense sans jeu au sol. Parce que Sean Moreno est vite blessé en plus.
Oui, c'est vrai que pas beaucoup auraient fait mieux.
Tu vois, il n'y a pas grand monde qui pouvait faire mieux face à une telle défense.
La première interception est vraiment vilaine, c'est pour sa pomme quand même. Enfin, il lance beaucoup trop loin, il lit mal.
Mais parce qu'il n'a pas été mis sous pression comme ça de l'année aussi.
Ouais, mais c'est ça. Et
Qu'il prend un joueur dans la tronche au moment où il la lance celle sur Smith. Hein.
C'est vrai qu'il...
Donc il n'a pas l'habitude de ça. Donc un peu. Il n'a pas été aidé par son équipe, quoique, parce que la défense, elle tient choc au début du match. Hein.
Oui, bah oui.
Ils sont menés que 5-0 après un début de match catastrophique, même 8-0 après.
En plus, totalement muselé Marshawn Lynch. Enfin, totalement, ils l'ont quand même pas mal muselé tout le match. Ils ont vraiment essayé de redonner un peu des armes à l'attaque pour s'en sortir. La défense des Broncos, c'est pas spécialement à blâmer sur ce match, hein, honnêtement.
Non, parce qu'elle finit par craquer à la fin, mais je veux dire, elle en prend tellement, c'est normal.
Quand t'es à 28-0,
les plaquages sur le touchdown de Jermaine Kearse sont affreux.
Ouais, mais le score est à combien, enfin, le match est déjà joué.
Mais bon, il y a un petit peu de Manning, c'est vrai. Après, un autre qui est quand même pas mal exposé, on parlait de play calling audacieux de Seattle, John Fox, lui.
Ah ouais, bah alors là.
Lui, par contre, il y a un petit problème à ce niveau-là.
Oui, bah, je me rappelle plus exactement un moment du match, mais je sais que ça m'a choqué. Les Broncos étaient menés d'une vingtaine de points, et John Fox tente un punt plutôt que d'aller chercher une 4-7 ou quelque chose comme ça. Enfin, tu dis, mec, t'as 20 points de retard, t'es en finale.
C'était à 29-0, je crois.
Si tu le tentes pas maintenant, enfin.
C'était 29-0 sur les 39 yards de Seattle, je crois, en 4e et 10. Celui-là est quand même
moment,
assez étrange.
Quand même, quoi.
je crois que celui-là est assez étrange. Après, et puis c'est d'autres choses, c'est ce que disent les joueurs après. Quand on entend Wes Welker qui dit qu'ils étaient mal préparés au bruit, quand on entend que John Fox justement pendant la semaine disait j'ai baissé le volume du bruit pendant l'entraînement parce que je pensais que c'était pas un match à l'extérieur, et que ça, c'est des petits détails. Quand on voit un mec comme Sean Payton à la Nouvelle-Orléans qui fait peindre le logo des Seahawks sur le terrain d'entraînement. Tu vois là toute la différence entre un coach qui va chercher le détail à fond et John Fox qui était là, bon bah voilà.
Donc c'est vrai que ça joue peut-être aussi.
Ils se sont fait vraiment, les Broncos se sont fait dézinguer dans tous les secteurs, on l'a dit depuis le début, y compris le coaching.
Non, mais ils ont gagné aucun duel, et c'est ça qui était même étonnant, parce que par exemple on pouvait penser qu'ils pourraient peut-être s'en sortir, leur ligne défensive face à la ligne offensive des Seahawks qui n'avait pas été totalement bonne cette saison. Mais Russell Wilson a passé toute la soirée dans un fauteuil pour lancer. Il n'a pas eu de problème. Sa ligne offensive a très très bien joué.
C'est vrai.
Vraiment, tous les joueurs des Seahawks, il n'y en a pas un qui a raté son match. Et c'est ça qui est exceptionnel dans cette performance. C'est qu'il n'y a pas un seul joueur de Seattle qui était mauvais. Quoi.
Oui, tu n'as pas l'impression qu'il y avait un seul mec en dessous.
C'est ça.
En attaque, Percy Harvin a fait un bien fou. Ça, avec ses petites courses, justement.
Il n'a pas énormément joué, mais ce qu'il a pu faire, il a pu le faire très bien.
45 yards en deux courses.
Ouais, c'est vrai que c'était...
C'est des trucs qui font mal, quand même.
Donc, une qui passe pas loin de finir en touchdown, parce qu'il mord la ligne de touche de très peu.
En plus, et donc, ce retour de coup de pied. Donc, lui, il a quand même réussi. Enfin, il n'est pas là de l'année, il vient là, il met deux courses pour 45 yards en touchdown.
J'ai bien vu aussi la performance, quand même, des receveurs des Seahawks.
Les receveurs.
Pas de drop, qui ont été constants.
Qui ont été impeccables. Et puis, alors, le seul qui est un peu en dessous, c'est Marshawn Lynch. Si tu regardes,
oui, du coup, oui.
Qui a été un peu stoppé parce qu'il a 39 yards et un touchdown dans 15 courses, mais il a une course de 18 yards. Mm. Donc ça fait 21 yards en 14 courses si tu regardes le reste.
C'est pas énorme, mais en même temps, il a focalisé l'attention de la défense adverse
sur lui. Voilà, après il ouvre le jeu.
C'est ça, à la limite, vu que le but c'est de gagner collectivement, que lui fasse une mauvaise prestation pour permettre à ses coéquipiers d'en faire une meilleure.
Après, il focalise, hein, c'est aussi le but.
Voilà, c'est ça.
C'est aussi le but. Mais vraiment, oui, un effort. Après, le fait que Lynch soit stoppé, ça montre aussi que la défense des Broncos n'était pas totalement à la rue, relativement.
Ouais,
encore une fois, le fait qu'il soit mené que 8-0
après un début
de match qui a été catastrophique, si l'attaque avait fait un minimum de ce qu'elle était censée faire, il pouvait rester dans ce match relativement et avancer et faire peut-être quelque chose. Mais c'est vraiment l'attaque. Et on avait dit, la semaine dernière dans la preview, on va se focaliser un peu sur autre chose que le duel attaque de Denver contre défense de Seattle.
Finalement,
ça a été l'énorme clé du match. La seule, ils se sont fait annihiler en attaque. Ça a été vraiment ça. Après, comme on l'a dit depuis le début, une performance parfaite. J'avais annoncé Harvin MVP sur le podcast des dilemmes, je suis passé pas loin, nous dit Jérém. Et c'est vrai que Harvin MVP, ça m'aurait pas choqué. Russell Wilson, pour dire le côté complet, Russell Wilson MVP, ça m'aurait pas choqué non plus.
Vu les stats,
vu le match qu'il fait, où il est première, propre, où il gère vraiment bien. Cam Chancellor MVP, ça m'aurait pas gêné. Cliff Avril, ça m'aurait pas gêné. Il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe qui ont fait des bons matchs. Voilà, Cam Chancellor, lui, qui fait l'unanimité sur le forum,
sur le chat, fait vraiment super match.
Avec son premier plaquage qui donne le ton sur l'offensive suivante.
Sur Julius Thomas, je crois que
quelque chose comme ça, un des Thomas, ouais. Donc vraiment, il donne le ton avec ce plaquage. Ça a été
C'est vrai que ça a tout de suite.
Donc clairement, il y a un truc qui, il y a un effort collectif fabuleux de cette équipe. Et un vrai, vrai collectif de cette équipe. Voilà, il n'y a pas de suspense. On n'a pas eu à... on n'a pas eu... C'est Demaryius Thomas, nous dit Jérém.
Okay.
Bon, c'était un des Thomas. il y a eu un vrai effort collectif. Et c'est vrai que c'était particulièrement impressionnant. Il n'y a pas eu de match. On n'a pas de moments cruciaux à vous raconter sur lesquels on s'est élevé en hurlant. Mais des fois, une équipe qui récite sa partition comme ça à la perfection... C'est aussi quand même un truc qui fera date, quoi.
Oui, et puis en plus, je veux dire, ils ont quand même fait des actions assez spectaculaires du côté des Seahawks. Il y a quand même ce retour de kick.
Oui.
Il y a plusieurs interceptions, il y a des fumbles provoqués, il y a des safety.
Le touchdown de Kers, je dis que les plaquages sont mauvais, c'est quand même aussi super fort de le voir faire ça, quoi.
C'est pour ça que j'ai trouvé les gens un peu durs en disant « Ah, c'était nul comme Super Bowl et tout ». Il n'y avait pas de suspense, mais je pense pas qu'on puisse le qualifier d'un mauvais Super Bowl.
Non, je suis pas persuadé non plus, parce qu'il n'y a pas eu, vraiment, encore une fois, il y a eu zéro erreur, quoi. C'était hallucinant. Voilà pour le match, on revient pour parler un peu de la suite de tout ça pour les deux équipes juste après ça. Good kick by Prater on a hop, it's Harvin, but now he takes off, and Percy Harvin gets free.
Percy Harvin inside the 30. He's gonna go. Touchdown, Seattle.
Welcome to the club, like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like.
On va maintenant parler un peu des retombées de ce Super Bowl pour les principaux protagonistes. Oui, McLemore bis, mais vous allez avoir beaucoup de McLemore aujourd'hui. J'espère que vous aimez ça. On va parler donc des retombées de ce Super Bowl pour les protagonistes. Deux destins assez opposés. On va commencer par le vieux Peyton Manning, 37 ans. Là, on ne parle plus de retraite.
Non.
On n'en parlait pas de toute façon avant, mais ça change rien à ses plans. Il va revenir, il peut pas s'arrêter là-dessus de toute façon.
Oui, ça
c'est impossible.
Ça serait un peu dommage effectivement de s'arrêter là-dessus. Puis je pense que les Broncos n'ont pas envie qu'ils s'arrêtent là-dessus, parce qu'actuellement les Broncos, je vois pas quel joueur ils pourraient, enfin quel quarterback peut les emmener plus loin que ce que fait Peyton Manning.
Bah non, là non. Non, là,
on est bien d'accord. Donc il continue pour lui et pour les Broncos et voilà.
Puis bon, je vais pas dire que 37 ans, mais au final, Brett Favre a monté qu'on peut jouer jusqu'à 40. Hein,
donc, ouais, puis Elway, il le gagne à 39, le Super Bowl, il me semble.
J'ai un doute sur Elway. Bon.
Ouais.
Peut-être aux alentours de 37.
Tard, hein.
Peut-être aux alentours de 37, quelque chose comme ça aussi. Bon. Donc bon, il va revenir. Est-ce qu'il est sorti de la conversation pour le plus grand de tous les temps avec ce match?
À mon avis, là, on va avoir plein de réponses sur le forum, je sens.
Sur le chat, ouais, je sens que ça va vous titiller. Bon, est-ce qu'il est sorti de la conversation ou pas?
Non, enfin, c'est dur à dire, honnêtement. Je t'avouerai que depuis dimanche, je réfléchis à cette question et j'arrive pas vraiment à me décider.
Non pour Gizmo69, non pour Pumpkins N. Malheureusement, je pense que oui pour G08, il n'y est jamais rentré pour Jerem. Vous pouvez reposer la question, nous dit Creed. Moi, je pense que non plus, au sens qu'il a toujours une chance et on sait que gagner, ça efface tout. Donc si par exemple, il gagne l'an prochain ou l'année d'après...
C'est ça, ouais.
Rebelote, on n'y pense plus. Après, même si je pense pas qu'il soit totalement fautif dans cette défaite, même s'il a une part, c'est clair qu'il a pris un gadin. Il a pris un gadin par rapport à Montana, ça fait mal. C'est serré avec Brady. Même si je pense que Brady avait quand même des bien meilleures défenses quand il les gagne. Et que depuis, il en gagne plus.
On n'en parle jamais assez de ces défenses des Patriots quand Brady gagne, mais il avait quand même des joueurs exceptionnels.
Et
dans
il se équipe. Serait fait exterminer contre les Sioux cette année.
Ah, cette année, oui, ça finissait mal aussi.
Il gagne son premier en faisant un match à la Russell Wilson. Plus ou moins, mais en ayant le finish, il mène le dernier drive, qui va au field goal. Mais voilà, il portait pas ses équipes comme portait Manning, donc la conversation est difficile. Mais je pense pas qu'il en sorte, parce que je sais que les stats veulent rien dire, mais il va battre tous les records et c'est quand même un des très grands.
Il a deux équipes différentes au Super Bowl, ça montre
l'influence qu'il a eue aussi sur ses équipes. Et ça montre, quelqu'un a dit tout à l'heure sur le chat, c'est lui qui coach, c'est pas John Fox. Et ça montre que le fait que les gens pensent ça montre à quel point l'influence qu'il a eu, parce qu'on disait la même chose quand il était à Indianapolis, on disait c'est pas Jim Caldwell, c'est lui. Donc ça montre quand même quelque chose. Après dans les Super Bowls il est pas au top. Encore une fois, faut voir comment il est entouré, faut voir ce qu'il y a en face. Là, l'équipe en face est juste meilleure. Au bout d'un moment, il peut pas battre à lui tout seul. Il peut donner un élan, il peut faire des choses. Mais
je trouve qu'il était limite plus responsable le Super Bowl face aux Saints.
Oui.
Limite plus responsable dans la défaite que celui-là. Celui-là, vraiment les Seahawks. Je pense que même si Peyton Manning avait été un peu meilleur, je les voyais vraiment pas battre ces Seahawks-là. Et dimanche soir, les Seahawks étaient trop forts dans tous les domaines. Et je pense qu'aucune équipe dimanche soir pouvait battre les Seahawks, tout simplement. Quoi.
Après, alors attendez, Red Rodgers a salué la défense de Seattle, sa ligne était incapable d'arrêter les Hawks. Puis c'est vrai que bon, il a un problème. Il n'y a pas un quarterback plus dépendant de sa ligne que Manning aujourd'hui. Il n'a pas de jambes, Peyton Manning. Donc il n'a pas de jambes, et à mon avis, maintenant, il doit quand même avoir un petit peu peur de se faire éclater la nuque. Donc il y a quand même une chance que quand tu t'es fait opérer 4 fois de la nuque, à mon avis, si t'as aligné lâche le ballon, tu t'en débarrasses vite, hein. Interception ou pas, t'as envie de pouvoir marcher. Donc
c'est vrai.
Donc voilà, mais après il y en a qui le font souligner, il a un bidon, dit Gizmo69. Jérém dit de toute façon on pourra pas savoir qui est le GOAT, donc le greatest of all time, puisqu'il joue à des époques différentes avec des règles différentes. C'est sûr. Ça marche pour tous les sports, mais c'est toujours un débat rigolo à avoir. C'est hyper dur de le comparer avec Montana. Montana avait aussi des très bons défenseurs aussi. Il y avait Ronnie Lott, il y avait d'autres joueurs. Il y avait Jerry Rice aussi. Il avait le meilleur receveur de tous les temps aussi. Donc ça peut jouer un peu quand même.
C'est vrai que ça peut aider.
Ça peut jouer un peu. Donc voilà, mais bon. En tout cas, il reste dans la conversation. À mon avis, il tiendra top 3
tranquillement. Que,
Seattle, situation complètement différente. Là, il faut gérer l'après-titre et pas se faire dépouiller. Relativement. Ouais. Golden Tate, Doug Baldwin, Beno Giacomini, Michael Bennett, Cliff Avril, Clinton McDonald, Tony McDaniel, Walter Thurman, Steven Oshka, free agent. Sauf, alors, Baldwin, c'est restreint.
Ouais. Il me semblait que Cliff Avril, c'est...
Cliff Avril, ah non, il avait signé pour 2 ans.
Oui, il me semble qu'il avait signé pour 2 ans.
Pardon, alors il y a juste Bennett. Chris Clemons vaudra 9,6 millions, Zach Miller 7 millions, donc il y a peut-être des décisions à prendre de ce côté-là. Sinera, ils sont, on va le virer, il vaut très cher. Possibilité de prolonger Earl Thomas et Richard Sherman déjà.
Faut le faire.
Voilà. Ça, donc ça va être dur de garder tout le monde peut-être quand même.
Ça va être dur de garder tout le monde maintenant dans les noms que tu dis.
C'est l'équipe la plus jeune de la NFL.
Doug Baldwin, j'ai envie de dire. Le receveur, c'est peut-être une des pièces vraiment où j'aurais le moins de mal à me séparer d'un receveur sans être méchant, comme Doug Baldwin, tu vois.
Ouais, il progresse bien quand même.
Oui, mais il y a Percy Irvin, donc tu vas espérer qu'il est en forme. Tu peux garder Golden Tate à la limite. Oui, en plus, oui.
Comment ?
Ouais, où tu fais partir Golden Tate et tu gardes Doug Baldwin. Je pense que tu peux te séparer d'un des deux.
Bon,
pour économiser un peu.
Il y a Jermaine Kearse aussi qui est là, mais donc lui, il est déjà là, je veux dire. Il n'est pas free agent.
Ouais.
Oui, donc tu peux fonctionner avec Arvin plus Kearse et Tate ou Baldwin en troisième.
Ouais, moi je pense, tu vois, tu peux.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jermichael, je préfère garder Baldwin que Tate. Tiens, nous dit, dit Belge 48. Je serais tenté plutôt de dire aussi, ouais. Il est peut-être plus.
Signer Bennett, à mon avis, ça serait pas mal.
Alors Bennett dit qu'il veut rester. Bon, va falloir faire quelques choix, à mon avis, en tout cas, d'autant que les Ravens l'ont vu. Gagner le Super Bowl, ça fait monter la valeur de tes joueurs.
C'est vrai.
Donc c'est plus dur de les garder. Ça va être compliqué. Si tu peux en prolonger qu'un seul en premier, Thomas ou Sherman?
Thomas. Tout le monde dit que c'est le patron de la défense. C'est lui qui a la plus grosse
apparemment, ce serait la priorité aussi.
Thomas et Sherman, tu vois avec lui, quoi. S'il veut vraiment t'en rester que ça, il peut aussi faire des efforts, faut voir.
Il y a une majorité de Thomas aussi sur le chat pour la prolongation. Donc voilà, bon, crucial en tout cas, c'est la plus jeune équipe de la ligue, on l'a dit, ils ont un quarterback, ils ont la bonne philosophie en défense, en théorie ils sont bâtis pour durer.
Ouais, en théorie ouais.
Est-ce qu'on a affaire peut-être à une future dynastie?
Le truc on en parle tout le monde aime bien à chaque première victoire du Super Bowl, est-ce que c'est une dynastie? Possible, en tout cas avec une défense pareille, tous les ans ils vont être de sérieux prétendants avec tant qu'ils gardent cette défense là. Russell Wilson vient de passer haut la main quand même le test de sang-froid pour un quarterback de deuxième année, parce que premier, il est qu'en deuxième année, le Super Bowl, je ne l'ai pas vu stresser une seule fois.
Non, il ne stresse jamais, je crois.
Donc s'il ne se blesse pas, les Seahawks sont quand même leur quarterback du futur et ont cette défense qui peut tenir.
Non, et c'est vrai qu'on parle de dynastie aussi, avec plus ça, que d'habitude, parce qu'ils sont très jeunes et qu'ils ne peuvent que progresser. Enfin, c'est très très fort quand même, comment
avec
ils sont construits.
T'as les éléments pour être en play-off tous les ans et pour prétendre au Super Bowl tous les ans quand même. Donc, je pense qu'ils ont vraiment les moyens d'établir une dynastie, je pense, ouais. Après, on sait très bien qu'en foot américain, ça va vite.
Oui, non. Autre point, alors là, on ne parle plus des deux équipes, mais on voulait en parler, on fait le bilan un peu général du match, le Super Bowl dans le froid. L'année prochaine, le Super Bowl est au chaud, mais c'est une question qui se pose pour l'avenir, puisque il est qualifié de réussite, en tout cas, par New York. Et donc, on a un Super Bowl maintenant avec Philadelphie, Boston. J'ai entendu qui d'autre, je ne sais plus.
Tout le monde qui
vit dans le froid est candidat. Voilà. Grosso modo, est-ce que ça te paraît jouable ou pas?
Ça se tente?
Moi, je vais te dire non.
Ça se tente?
Moi, je vais te dire non, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un énorme coup de bol. Ils ont juste eu un énorme coup de bol cette année. Et pas seulement pour le match et que dans le froid. C'est-à-dire que le lendemain, il se met à neiger, le lundi. Et il y a eu 1400 vols annulés sur l'est des États-Unis. Donc il y a des gens qui ont eu des galères pour rentrer.
C'est vrai.
Et ils passent à pas grand-chose. Ils ont un pot monstrueux parce qu'il fait beau samedi et dimanche. Et pour y avoir été, donc, il faisait moins 10 degrés, grosso modo, mardi ou mercredi. Il faisait un froid de canard. Et c'est monté pendant toute la semaine. Samedi, il faisait plutôt bon. Dimanche, il faisait plutôt bon aussi. Et donc, on était aux alentours de 10 degrés samedi et dimanche. Et lundi, rebelote tempête de neige le matin. Mais vraiment, ils ont eu un pot monstrueux. Et quand on voit la galère que ça a été dans les transports en commun déjà pour venir au match pour les gens qui ont pris les transports en commun, voilà, ils ont vraiment eu un pot monstre. Ils passent à 3 jours avant ou 3 jours après que ce soit hyper galère, que les gens se les gèlent et que... Bah, moi, je pense pas que ce soit une si forte idée que ça. Si tu le fais à Philadelphie et que c'est une galère monstre et qu'il neige et que les gens peuvent plus repartir des aéroports ou peuvent pas arriver, ils vont le regretter. Et voilà, moi je...
Ouais, je sais pas.
Dans le Minnesota, ce serait couvert, hein, nous dit Paco NYJ, et c'est vrai. Mais après, ça n'empêche pas les tempêtes de neige pour les avions qui arrivent ou qui repartent.
C'est vrai.
Donc, mais
c'est
après, pour
ça,
le stade,
pour
le stade, oui. Mais c'est voilà.
Mais
c'est...
je pense qu'après aussi, New York l'a obtenu parce que c'est New York. Et effectivement, je suis pas sûr que Philadelphie.
Ça joue.
Voilà,
ça joue. Et ça valait peut-être le coup de prendre le risque que c'était New York et que t'en faisais un événement global, mondial, new-yorkais, etc. Mais vraiment, voilà, aller se risquer à aller le faire à Philadelphie ou à Boston ou dans une autre ville
Chicago,
où on se les gèle, ou Chicago, voilà, qui était candidat, c'est des très belles villes, enfin, c'est des grandes villes, très bien. Mais c'est vraiment dangereux. Et est-ce que c'est agréable de passer la semaine à se les geler? Je laisserai ça à votre convenance, chacun ses goûts, hein, mais j'aurais pas craché sur être à Miami à la place, hein, au niveau de la météo. Hein.
Oh.
C'était super froid, il y a des jours où c'était très très froid. Ah oui, il y a Denver qui est candidat aussi, Paco NYJ nous fait remarquer. Donc à Denver, il ne neige pas souvent, nous dit Rookie BZH. Est-ce que New York pourrait devenir une destination habituelle pour le Super Bowl, c'est le stade des Dolphins DC-33? C'est froid NYC, hein, le vent nous dit G08, ouais c'est le vent je crois qui était le pire d'ailleurs. C'est vrai que quand il faisait un froid sec ça allait, mais le vent c'était le plus terrible. Mmh. On passe au top et au flop. Top et flop du Super Bowl.
Commence par
Raphaël, je te laisse commencer.
Ouais, bah top, j'ai envie de dire, c'est un peu bateau, mais les Seahawks, je trouve qu'il y a... Pour le coup, il n'y a pas vraiment de joueurs à faire ressortir de cette équipe. Et c'est vraiment tout un collectif qui a brillé dimanche soir. Donc, ils méritent le top tous, quoi.
Ouais, bah, moi, justement, alors, je pensais que tu allais faire les arrières défensifs des Seahawks, ouais. Donc je ne l'ai pas dit. Mais j'ai pris Percy Harvin parce que je trouve ça tellement fort. Bien sûr, il n'a pas 50 réceptions, mais tellement fort d'être là et de contribuer et d'être efficace et de faire une différence en n'ayant quasiment pas joué de l'année. J'ai trouvé ça tellement fort que je trouvais que ça méritait un top. Tiens, donnez-nous vos tops. Tiens, alors top to Seattle, plus un Pete Carroll pour Nono Lolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La ligne. Alors, il y a deux flops pour John Amat. Alors, ton flop.
Mon flop, je dirais peut-être le coaching de John Fox. Je pense qu'à un moment, fallait peut-être essayer de faire autre chose. Je dis pas que c'était forcément facile, mais... Je sais pas, cette décision de faire des punts alors que t'es mené de 28 points, enfin, je sais pas. Je pense qu'à un moment, c'est aussi au coach d'essayer de réveiller son équipe et
bah,
j'ai l'impression qu'il n'en a pas été capable.
Mon flop, c'était John Fox aussi, ouais. Je trouve que son équipe n'était pas prête et qu'il ne les a pas réveillés, enfin, qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu grand-chose à ce niveau-là. Bon, pour vos flops, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du Red Hot, du Bruno Mars. Cam Chancellor. Alors, pour les tops, on avait le 12e homme aussi. on entendait que Leo MetLife nous dit Jovin Hawks. Il y a Inkfish qui est gentil, qui met top Alain Mattei. Flop, la offensive line de Denver nous dit Paco NYJ. Voilà, et bah, écoutez, il y a pas mal de choses. On va passer à quoi? Ah bon, on passe aux news. À tout de suite.
Studio 3C in Rockefeller Center. This is Today in New York.
Et alors ce jingle,
tu l'as vu alors à la télé? J'ai la chance.
Je l'ai vu à la télé. je vais pas. Mon flop, c'était John Fox, Rookie BZH sur le chat. J'ai vu le jingle à la télé parce que je vais pas vous mentir, je l'avais pris sur internet, je cherchais dans des banques de sons et j'avais trouvé ce jingle news. Je croyais que c'était un jingle news bateau et en fait c'est le jingle de NBC le matin sur de NBC local à New York.
D'accord.
Parce qu'en fait le matin j'étais en train de me préparer, j'avais mis la télé locale pour avoir la météo et là j'entends ce jingle. Donc j'entends ça.
Live from Studio 3C in Rockefeller Center. This is Today in New York.
Et donc c'est Today sur NBC local à New York.
Ben voilà.
Donc les news de cette semaine, on a voulu en parler parce qu'on est un peu pas d'accord avec ce qui s'est passé.
C'est un
scandale, monsieur. les trophées NFL, samedi avant le Super Bowl, la NFL a remis ses trophées de fin d'année. Comme nous sommes pas d'accord, eh ben on a décidé d'en parler. Alors, celui avec lequel on est d'accord, je suppose MVP Peyton Manning.
Oui, voilà ça.
Tom Brady, un vote.
pourquoi pas, c'est pas une dictature, hein, non, c'est pas mais, grave, chacun a son avis.
Tu sais qu'en lisant son explication au gars, je me suis dit pourquoi pas.
Oui, oui.
Je trouve pas ça idiot d'avoir voté avec ce raisonnement-là pour Tom Brady, de dire qu'il avait apporté plus de valeur à son équipe et d'avoir fait ce qu'il a fait avec ce qu'il avait. Je suis plutôt... ouais. Joueur offensif de l'année, encore Manning.
Là, déjà,
c'est un peu plus étrange.
Oui, c'est un peu plus étrange parce que je vois pas l'intérêt de créer ce trophée-là si tu le files au MVP, en fait. Je comprends pas l'intérêt. C'est...
Bah,
parce que Manning étant MVP, c'est forcément le meilleur joueur offensif.
C'est ça. Également, et d'autant plus que. Alors attends, quelqu'un l'a fait remarquer. Jérém, vous pensez pas que les awards de cette année sont un peu abusés? Peyton avec 3 récompenses, alors que Charles ou McCoy auraient largement mérité d'avoir le joueur offensif. Ça, c'est clair. Enfin, McCoy ou Charles me paraissaient les deux choix.
Oui,
offensivement, les plus évidents.
Non, mais
quoi.
Je sais pas, faut qu'il fasse quand il demande aux journalistes de voter pour ce trophée-là. Si jamais le premier du vote a le MVP, on passe au deuxième. Enfin, je sais pas, mais
peut-être, oui.
Je vois pas cet intérêt de donner les deux trophées au même joueur.
Ils ont vu, voilà, il a battu tous les records offensifs, donc ils lui donnent tout. Défenseur de l'année, Luke Kuechly, 156 plaquages, 2 sacs, 4 interceptions. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée pour moi.
Ah, celle-là, elle est très compliquée même pour moi. Déjà, je trouve ça un peu dommage de pas remettre le trophée à un des leaders de la défense de Seattle qui a été vraiment la meilleure défense cette saison. Donc Earl Thomas ou Richard Sherman, un des deux.
Earl Thomas pour Jovin Hooks, Earl Thomas pour G08, Quinn Matisse méritait plus pour Hibou. Thomas de loin pour Belge 48. Je suis assez d'accord. Je vois pas comment on donne pas soit un dégât de Seattle, soit à Matisse ou Quinn qui sont derrière.
C'est pas pour
Matisse qui fait 19 sacs et demi avec personne autour quasiment.
Ouais, et puis enfin je sais pas, le poste de linebacker c'est quand même pas le plus. Je trouve c'est pas le poste le plus compliqué dans une défense, le poste de linebacker.
Quand on voit ce que fait Kiko Alonso en débarquant là.
Voilà,
aussi,
c'est ça. Les stats montent très vite parce que c'est toi qui es sur le plaquage et tout, ça monte très vite. Mais je suis un peu. Je suis un peu sceptique sur cette récompense. Quickly est un très bon joueur, mais
oui, non, mais c'est pas contre lui. C'est pas contre lui, c'est qu'il y avait des joueurs qui méritaient plus. Coach, en parlant de joueurs qui méritaient plus, Ron Rivera, un autre Panthers. Alors on avait décidé de faire du Panthers visiblement.
C'était
à la NFL
hype
ce soir-là.
Ouais.
Pareil, Ron Rivera.
Tout le monde voulait le virer au bout de 3 semaines et il se retrouve.
Nous inclus. Je sais qu'on nous l'a fait remarquer dans les commentaires.
Ah, mais je me débine pas, je suis pas persuadé que ça reste un grand coach malgré la fin de saison, hein, moi, personnellement.
Mais, voilà, Ron Rivera, quand on voit ce que. On parlait de Tom Brady, mais quand on voit ce que Bill Belichick a fait avec les Patriots, quand on voit ce que Chip Kelly a fait avec les Eagles.
Ouais, qui les a rendus hyper attractifs. Même Bruce Arians en arrivant chez les Cardinals, Pete Carroll.
Rivera, j'avais envie de dire encore heureux quand même avec les joueurs qu'il a en défense et avec le nombre de coureurs surpayés qu'il là et avec un ancien premier choix de la draft en quarterback, quand même, moi je suis sidéré que Bruce Arians nous fait remarquer pas de 92 ouais. Bruce Arians aussi, enfin super
moi,
beau, alors qu'on pensait que les Cardinals allaient se faire démonter cette saison. Donc Arians, Kelly ou Belichick pour moi étaient au-dessus, clairement.
C'est vrai.
Rookie offensif de l'année, Eddie Lacy. Là, bon, moi j'aurais mis Keenan Allen,
voilà, moi
mais
aussi,
ça se défend.
Parce que on sait qu'en général, le receveur, c'est quand même plus difficile à maîtriser quand t'es rookie qu'au coureur. Mais bon, ça se défend, on va dire. C'est pas le plus choquant des trophées de la soirée.
Moi, c'est Keenan Allen parce que je trouvais que le poste est plus dur à appréhender au niveau des receveurs. Et puis, rookie défensif, Sheldon Richardson. Là, par contre, c'est là où on était à peu près d'accord.
Bon.
Alors, le plus drôle de la soirée. Comeback player de l'année.
Là, c'est mon plus gros scandale.
Alors celui-là,
je comprends.
Comeback player de l'année. Je sais que ça fait plaisir à Raoul Villeroy, on lui passe le bonjour. Mais Philip Rivers, pourquoi comeback?
Non mais je comprends pas. Juste parce que voilà, l'an dernier, tout joueur peut avoir une période un peu difficile. Je comprends pas ce trophée donné à un joueur qui améliore juste ses performances. Enfin voilà, puis c'est pas pour prêcher ma paroisse, mais quand je vois que Terrell Thomas a raté les deux dernières saisons avec les Giants, qui vient cette année, qui joue tous les matchs à un niveau correct. Enfin, pour moi, il mérite plus un titre de comeback player que Philip Rivers.
Je vois pas de quoi il revient, en fait. Moi, j'ai du mal avec le terme comeback, quoi. Si c'est juste faire une saison pourrie...
Ouais, non, mais c'est ça.
C'est vraiment incompréhensible. Faudra donner une définition de l'award l'an prochain et qu'ils expliquent sur quoi on vote. Hein, parce que...
moi, ça me paraît plus logique de revenir d'une blessure.
Oui, là, franchement, je m'attendais à tout sauf à Philip Rivers. Que quand j'ai vu le résultat, j'ai pas trop compris, quoi. Et ça veut dire que t'as de la chance. Et là, Manning est en course pour l'an prochain.
Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est bien. Ça va être sympa, tu vois.
Ah bah tiens, il y a Beast Mode justement qui vient de le dire, ça fera un trophée pour Eli l'année prochaine.
Ouais, il en gagnera plus, non.
Allez, on passe un mot sur le Hall of Fame aussi en parlant de Giants. Michael Strahan est au Hall of Fame, ça a dû te faire plaisir.
Ouais, sympa.
141 sacs et demi sur sa carrière, ça me paraît plutôt mérité. Un des symboles de New York et des Giants, ça me paraissait en plus gros qu'il ne le soit pas honoré
ouais,
ce week-end-là
ça,
parce
ça
que c'était quand même, New York.
Oui, oui, ça sentait le...
Ça fait bizarre de le voir à la télé parce qu'il anime, tu sais, maintenant l'émission du matin.
Oui,
une émission du matin, je ne sais plus sur quelle chaîne. Avant c'était Reggie Sekeli et maintenant c'est avec Michael Strahan, ça fait assez bizarre. Il y avait un débat avec Warren Sapp hein, qui disait qu'il méritait pas pendant la semaine,
ouais,
ils se sont un peu écharpés puis
s'est excusé. Il s'est
excusé,
ça, puis il a fait ah non, je m'excuse.
Bon, les autres élus, André Reed, Walter Jones, Aynas Williams et Claude Humphrey et Regaï. Ah. Un punter.
Eh ben ça j'aime beaucoup personnellement. Ouais. C'est quand même un punter qui a été, je crois, 8 fois All-Pro si je dis pas de bêtises. Enfin un mec qui a dominé son poste. Je veux dire, ils font aussi partie de ce jeu, donc pourquoi ne pas récompenser les punters en allant au Hall of Fame? Parce qu'à partir de... Enfin, si tu les récompenses pas comme ça, bah ça veut dire que ça fait partie du jeu. Punter, c'est très bien d'avoir un bon punter dans son équipe.
Très, très bien. Les oubliés, Marvin Harrison, Tim Brown, Tony Dungy,
Charles Haley aussi.
Charles Haley et Jérôme Bettis. Bon, mais après, ils auront peut-être d'autres chances.
Ils vont rentrer, oui.
Après, il faut voir... encore une fois, ça reste à voir quelle est la définition du MVP, du Hall of Fame. Ouais, si tu mets que l'élite de l'élite ou si tu mets...
mais ils vont finir par rentrer, de toute façon, ce genre-là, à mon avis.
Il y a des chances. Il y a des chances. On passe à vos questions.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On passe à vos questions et avant de commencer, on va donner le nom du vainqueur du concours Madden 25 qu'on avait lancé au début des playoffs. On vous rappelle, il fallait donner le nom du vainqueur du Super Bowl. Et vous avez été... et j'ai repassé les mails en revue aujourd'hui. Il y avait beaucoup de Chargers.
Il y a des mecs. Des...
Je dis ça comme ça, mais vous avez été beaucoup à pronostiquer les Chargers. J'étais super étonné. Bon, donc on avait demandé le vainqueur du Super Bowl et un score pour départager. On a pris le plus gros écart de score donné, puisque au final, ça a été une boucherie. Le vainqueur, c'est Sébastien Joly. Félicitations à lui. On va le recontacter pour lui demander ses coordonnées et lui envoyer tout ça. Il a donc remporté Madden 25 sur PS4. On passe à vos questions. Ah oui, pour la malédiction des Eagles, les gens avaient... la bénédiction des Eagles, nous font remarquer les gens sur le chat. C'est vrai que normalement, tu gagnes si tu joues les Eagles début d'année.
Ça faisait que depuis 3 ans, c'était pas une grande bénédiction. Enfin, c'était pas...
C'était vraiment un hasard incroyable, surtout.
Ouais, c'est dingue.
Allez, on passe à vos questions, c'est parti. Vous pouvez en poser sur le chat, on va en prendre à la volée, on prend dans la casquette aussi pour les gens qui nous les ont posées en avance et qui ne pouvaient pas être là.
Alors, Nico DH, quand est-ce que Touchdown Actu pour emmener toute l'équipe de rédacteurs au Super Bowl? Alain a dû se sentir un peu seul.
Je sens que Nico est intéressé puisqu'il est rédacteur pour le site. Et je ne sais pas, les amis. J'espère un jour, mais ça va faire quand même un sacré budget. Il va falloir que vous cliquiez sur beaucoup de pubs. J'ai peur. Attendez, cliquez pas, faites pas de clics forcés sur les pubs, au fait. Hein. Après, la régie va pas être contente. Brian Dawkins qui nous demande, Daryl Revis prouvera-t-il à Sherman qu'il est le meilleur ou devra-t-il s'incliner?
Je pense pas
que Revis reviendra à son
ouais,
top.
Voilà, c'est ça. Maintenant, le débat sur Revis au top de sa forme face à Sherman, il y a débat, mais...
Ah, au top de la forme, oui, il y a débat, mais...
Mais je vois pas Revis revenir, pareil. Ouais. Je suis un peu sceptique là-dessus.
Et quoi, Alain, tu te prépares pour San Francisco l'année prochaine? Nous dit Belge 48, c'est pas à San Francisco l'année prochaine, c'est à Glendale en Arizona.
Ouais.
Mais je sais pas encore ce que je fais l'an prochain, c'est très loin tout ça.
Alors attendez,
vas-y, pendant que tu tires des questions, je vais prendre sur le chat. Qu'est-ce qu'on a? Ton meilleur moment de cette semaine, nous demande Hibou. Le match, comment on dit? Non, je sais pas quel moment. Le coup d'envoi, peut-être, le moment où c'est, on y est enfin. Après, il y a eu plein de bonnes choses pendant toute la semaine, hein, mais. Question suivante.
Alors, question de Monsieur Burp. Plusieurs questions, donc. Quelle place dans l'histoire pour cette défense des Seahawks?
Elle est pas très loin du haut. Hein.
Elle est pas très loin du haut.
Elle est dans les top défenses. Je pense qu'on s'en rappellera maintenant avec Bears, Buccaneers et il y en a
Steelers.
Et Ravens, voilà, Ravens début des années
Steelers,
2000.
Steelers, années 70 aussi, c'était pas mal quand même.
Ouais, mais je peux pas te dire, honnêtement, j'étais pas là pour regarder. Hein.
Oui, j'étais pas regardé, mais j'avais vu des trucs.
Les Ravens des années 2000 et Buccaneers des années 2000, particulièrement impressionnantes. Mmh. Je pense qu'on les gardera avec celle-là, en plus époque moderne, quoi.
Ouais.
Question d'SNJ qui nous dit pas eu trop froid, Alain, pendant les heures dans le stade. Je vais vous donner une anecdote. Il y avait des radiateurs au-dessus de la tribune de presse, donc on n'a pas du tout eu froid. Au contraire, on a eu une chaleur mais hallucinante. Et j'ai travaillé donc en chemise pendant tout le match. Voilà, j'avais 25 couches sur moi, je les ai toutes retirées. Il faisait une chaleur mortelle dans la tribune avec, je ne sais pas si vous voyez les radiateurs qu'on met dans les bars là maintenant pour réchauffer. Bah, il y en avait, je sais pas, 50 au-dessus de la tribune de presse. Donc tout allait bien au niveau de la chaleur. Hein. C'était Miami.
Alors, question de Pumpkin's Head. Je veux savoir comment Camille a fêté la victoire. Dans quel état a-t-il fini ?
Camille, vas-y, va au micro de Raphaël.
Moi, le truc, c'est que j'étais toujours stressé, même peut-être à la fin du troisième quart-temps, j'étais un peu toujours stressé.
Oh, le menteur !
Non, mais du coup, ouais, enfin, il n'y a pas eu de jeu. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit maintenant c'est fini, etc. C'était assez progressif, donc. Dans un sens, il y a eu moins d'explosions.
Ils sont pas lucides, les fans, hein, tu le vois quand même. les mecs, tout le monde a pensé que le match était plié. Lui, dans le quatrième carton, il est encore en stress. Quoi. Oh, Denver vient de marquer.
Voilà, mais sinon, le truc est bon. Après, c'était tard, donc difficile de fêter la victoire quand le bar se ferme.
C'est vrai. C'est vrai. Le mec qui fête le truc dans Paris à 7h30 du mat quand il est au boulot, tu sais. Ouais.
Enfin, bon.
Bon, allez, il y a pas mal de questions sur ce que j'ai fait à New York et pendant la semaine. Si vous voulez, on vous gardera un petit peu pour répondre à certaines, parce que sinon on va faire un podcast beaucoup trop long, mais on pourra vous garder pour répondre à certaines et faire un petit question-réponse pour que je raconte ma vie si vous voulez après. Mais attendez, parce que donc qui a été interviewé, vous en avez vu pas mal sur le site. Est-ce que j'ai croisé des stars? Oui, ça c'était possible. Je me rappelle surtout avoir croisé des joueurs, des anciens joueurs, des choses comme ça. Alain, tu as vu plus de supporters des Jets ou des Giants à New York? Des Giants, je dirais, tiens. Ouais, je dirais des Giants. Votre MVP du match, Jovinox, donc on l'a dit, hein, à peu près tout le monde quasiment. Ouais, ils auraient pu donner un MVP d'ensemble à la défense sinon. Combien de journalistes dans cette tribune de presse SNJ? En tout, il y avait 5300 personnes accréditées pour le match. Donc, je n'ai pas le détail parce que ça comprend toute la semaine. Mais vraiment, vraiment très, très long. Belge 48, quelque chose qui t'a déplu pendant ta semaine? J'ai bien aimé le Media Day en tant qu'expérience. Après, ce n'est pas un truc pour travailler en tant que journaliste vraiment et avoir le temps de poser des questions. Il y a beaucoup beaucoup trop de monde, c'est plus un truc pour se déguiser et se faire filmer
ou alors
déguiser.
Si seulement quand t'es journaliste sur NBC,
oui,
Fox,
voilà,
c'est les seuls.
Voilà, t'es Deion Sanders, les gens ils écartent la foule devant toi et voilà. mais vraiment non, c'était mais après on avait des meilleurs dispo pour les interviews les jours suivants, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Paco NYJ, tu voyais bien depuis l'endroit où tu étais? Oui, on était plutôt bien. On était juste en haut de la tribune basse, donc c'est-à-dire juste sous la deuxième. On était protégé par la tribune par la tribune haute et on voyait plutôt bien. Alors, on était derrière la end zone, mais on était relativement bas. Je sais que sur la vidéo, il y a des gens qui m'ont dit qu'on avait l'air de mal voir, mais la vidéo, le fait est que la vidéo l'objectif raptisse la truc, donc on voyait beaucoup mieux que ça. Hein. C'était vraiment pas mal et le premier fumble on l'a très bien vu puisqu'il était juste devant nous, puisqu'on était c'était la end zone qui était au pied devant nous, donc ça il n'y a pas eu de soucis. Beast Mode qui nous demande: as-tu eu le temps d'aller voir un match des Knicks ou des Nets? J'ai fait les Knicks et les Nets, donc oui, je me suis fait plaisir. Donc voilà, tac tac tac. Bon, je vous dis les persos, on en prendra peut-être un peu plus après. On va continuer. Un avis sur le show de mi-temps, Rookie BZH. Ça, on peut répondre. C'était quand même du Super Bowl. Et ben moi, je vais vous dire, j'ai kiffé. Je vais pas mentir, j'ai kiffé. J'étais dans la tribune, j'étais en train de danser.
Ouais,
je...
mais peut-être qu'au stade, c'est différent aussi, tu vois.
Je pense, parce que ça pétarade, t'as les lumières, ouais. T'as les feux d'artifice autour de toi. C'est vraiment. Après, à la télé, tu rends pas l'ambiance.
À la télé, c'était mieux que Madonna et Beyoncé les deux dernières années, par exemple.
SNJ nous demande qui tweetait de TD Actu pendant le match, c'était moi. Donc, c'est vraiment, et alors des petits trucs sur le show de mi-temps par exemple, et peut-être qu'on s'en rend peut-être plus compte en étant là-bas et en sachant, mais par exemple toutes les lumières qu'on voyait aller et venir, tu sais, qui changeaient dans la tribune, qui faisaient le tour, en fait c'était des bonnets qui étaient donnés aux gens et la lumière était sur les bonnets de tous les gens, tu vois. Donc c'était, mais je trouvais ça vachement astucieux, tu vois, c'est pas mal. En fait tout le monde avait un bonnet sur son siège, tu tirais une petite languette et ça mettait en marche le truc et hop, voilà. Toutes les lumières de la tribune que tu voyais qui allaient et venaient et qui changeaient de couleur, c'était les bonnets en fait. C'était plutôt bien foutu. Non, moi je n'ai pas mis le bonnet, Paco NYG nous demande. Mais voilà, donc il y avait ça. Et après, oui, quelqu'un parle du solo de batterie. Moi j'avoue que Bruno Mars est remonté d'un coup dans mon estime déjà en commençant la batterie. Ça déjà, ça m'a plu. Et puis après, non, le show. Après, peut-être qu'à la télé, c'est un peu moins punchy.
Ouais,
mais honnêtement, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait beaucoup moins de mise en scène. La scène était beaucoup plus petite. Alors après, je suppose qu'ils avaient fait ça pour des raisons où il y ait de la neige ou quoi, pour que ce soit plus pratique. Mais la scène était beaucoup plus petite. Il y avait beaucoup moins de show, de gens, de trucs qui dansaient autour, machin. Je trouvais que c'était plus musical, c'était de la musique, on y était. Et voilà, c'était Bruno Mars. Je suis pas super client de la musique à la base, mais au final, c'est dansant et sur le coup, quand t'es dans l'ambiance, t'es de bonne humeur, c'est le match. Ça commence plutôt bien. Les Red Hot 30, c'est plutôt punchy aussi. Alors, j'ai entendu les trucs, c'était en playback, etc. Alors, pour être précis, parce que Flea des Red Hot a publié un communiqué, c'était pas en playback, c'était la partie musicale qui était enregistrée. Ils chantaient en live, tous, mais la partie audio était enregistrée. Les instruments et tout ça étaient enregistrés. Parce qu'apparemment, la NFL voulait que ce soit à la seconde près pour l'audio et qu'ils sachent quand ça commence et quand ça s'arrête. Et en fait, ils disaient qu'ils ont rencontré Bruno Mars avant, ils ont enregistré les morceaux avec lui et en fait, ils ont posé que leur voix dessus. Mais après, les Red Hot, sont honnêtes là-dessus, puisqu'ils disaient si nos guitares n'étaient pas branchées, c'est qu'on ne voulait pas le cacher. Si on avait vraiment voulu faire semblant à fond, on aurait branché les guitares et fait semblant. Donc, c'est vraiment, voilà. Mais moi j'ai adoré. Question suivante. Et on en a plein en plus.
Alors, question de Nico Dust. Pensez-vous que les Patriots payent cher le fait d'être depuis près de 15 ans au 30e choix de la draft? Bravo à tous. J'ai même coupé Adblock rien que pour vous.
C'est gentil, ça il faut le faire.
C'est gentil. Est-ce qu'ils payent leur choix?
Non, parce que s'ils sont 30e de la draft, c'est qu'ils gagnent. Donc ils vont pas les choix, ils vont pas regretter.
Avec le 30e choix, tu prends quand même des bons joueurs.
Jaron Mayo, c'était un 8e choix, hein, je crois, qu'ils avaient récupéré des Raiders à l'époque. Donc, non. Si t'es si haut, c'est que tu gagnes. Donc il n'y a pas de regret à avoir à propos de ça. Hein. Ils sont bien gérés. Tout d'abord, je tiens à dire que la recette de burger est géniale, Alain. Merci. Si on pourrait parler de bouffe pendant des heures après ce que j'ai vécu la semaine dernière. Sinon, où vous voyez Michael Vick l'an prochain? Peut-il être titulaire? Moi j'aurais du mal. Hein. Vick, titulaire?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas chez une équipe désespérée?
Chez les Raiders, ce serait rock'n'roll, franchement.
Et enfin, comme l'a fait Fall cette année, quel rookie vous voyez exploser dans sa saison sophomore? C'était des questions de RX3. C'est très dur à dire ça quand même. Surtout ouais, Falls, il fallait quand même le prédire. Question suivante. Le meilleur déguisement de fan, nous dit Inkfish. C'est une bonne question, ça. Le jour du match, ça m'a pas tant frappé, tiens, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de déguisement. Au Media Day, il y avait des journalistes déguisés en Charlie. Il y en a un qui était déguisé en Mozart. Et il y avait des... Non, j'allais dire une grossièreté, ça je peux pas le dire.
Alors question de Airjag. Fantasy Draft, tous les joueurs NFL sont sur le marché, vous avez le premier choix, vous choisissez qui?
Ça c'est une bonne question. Et moi je dirais Aaron Rodgers.
Ouais, allez, Aaron Rodgers aussi.
Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'on a? La tribune de presse était du côté du safety en début de match. Alain nous demandait SNJ. Oui, ils étaient juste au pied. Est-ce que j'ai croisé Samantha Ponder? Nous demande la mouche. Non, sinon je ne serais plus là. Je serais rentré avec elle. Je ne serais jamais revenu. On serait en cavale. On serait en cavale parce que je l'aurais enlevé. Je plaisante, bien sûr. Est-ce que j'ai croisé la sideline girl de la Fox, nous demande Jérém. Ça me dit rien. Erin Andrews, ça me dit rien. Par contre, c'était les nanas de TV Azteca, en fait, qui étaient toujours habillées de manière très légère en Media Day. Alors, donc c'était, vas-y, question suivante.
Question de Baptiste 766. Votre meilleure pub du Super Bowl. J'ai bien aimé le trip de la Bud Light.
Ah ouais,
avec
la Bud Light avec l'inconnu, elle est fabuleuse. Hein.
En plus, il y a Minka Kelly dedans.
En plus, allez, vendu pour plus. Celle-là. Alain, quels joueurs t'ont paru les plus sympas? Autant nous demande Scarlett Terror. Vous l'avez vu, ça, je pense, sur le site, les joueurs les plus sympas, vraiment. Enfin, en tout cas, de ceux avec qui j'ai parlé, c'était vraiment les Britton Colquitt des Broncos et Aaron Brewer, donc des Broncos aussi, le long snapper et le special teamer. Qui était vraiment super sympa, super marrant. On a rigolé, on a fait l'interview. Et ils étaient vraiment cool. Et en plus, c'est pareil, hein, c'est une petite dédicace à lui. Mais je trouvais que Britton Colquitt avait un petit air de Raoul Villeroy. Et donc, en fait, en lui parlant, je trouvais qu'il ressemblait à Raoul. Donc, c'était assez bizarre. Le moins sympa, écoutez, moins sympa, il n'y en avait pas. Il n'y en a aucun qui était agressif pour dire. Il y en a où tu sentais qu'ils étaient vraiment là juste pour faire le taf.
Ouais.
Wes Welker avait l'air un poil plus blasé, par exemple. Quand ça dépendait des questions, ça dépendait de mon des trucs. Après, non. Moi, et puis après, des fois, moi, j'y allais au feeling. Justement, quand je voyais que le mec était sympa, j'allais voir. Tu vois, c'était Nate Irving, le linebacker des Broncos, qui était plutôt cool aussi. Lynch, il est parti avant que tu lui demandes un seul truc, dit Creed Boy. Lynch, je suis pas allé lui demander, c'est pour ça. Lynch, il y avait tellement de monde autour, honnêtement, hein, j'avais pas envie d'aller me
frotter.
J'avais pas envie, voilà, d'aller me littéralement me frotter à tous mes collègues. Comment ils ont réagi face au Frenchie, nous demande la taupe. Et ben alors, ça, justement, par exemple, c'était assez sympa parce qu'il y en a où justement, tu vois, je disais où, à l'accent, il y en a un qui c'était un joueur des Seahawks d'ailleurs, le long snapper avec qui on a fait l'interview aussi. Qui m'a tout de suite demandé d'où je venais, qui m'a raconté qu'il était déjà allé à Nice en passant par Paris et que donc qui était très sympa aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, mais dans l'ensemble ça allait. Ils étaient plutôt Quentin Jammer était sympa aussi dans le genre vétéran. On a parlé aussi de ses vacances, de sa lune de miel à Paris. Donc non, c'était Trindon Holiday était assez blasé aussi quand il a répondu aux questions.
Ouais.
Et alors, si vous voulez, alors je vais pas dire pas sympa, mais Warren Sapp, puisque il y a eu une dispo média des joueurs de NFL Network, et Warren Sapp, des joueurs, des consultants de NFL Network, et Warren Sapp était quand même super cash, mais alors vraiment super cash quand il répondait aux gens. Donc fallait pas mal le prendre, à mon avis, parce que je suis pas sûr que c'était méchant. Hein. Mais alors, il était vraiment. Moi, pour le coup, j'ai pas posé de questions. Mais tu sais, genre, on était plusieurs, et alors c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que quand tu interviews des gens, bah, t'as le micro tendu, des fois il y a des mecs qui partent, qui reviennent ou qui arrivent en cours d'interview, les dispos sont parfois assez longues, tu vois. Et il y a un type qui arrive qui lui pose une question, tu sais, et apparemment la question a été plus ou moins posée. Il lève la tête, il le regarde, il fait: mais vous étiez là? Question suivante. Tu vois, c'était vraiment. Donc, il a l'air gool au sens. Ouais, tu vois, il a de la gouaille, ça c'est vrai. Tu vois, il a vraiment de la gouaille. Ouais. Il parle, il est rigolo et tout, ça c'est clair. Mais tu vois, quand il y a une question qui lui plaît pas, il te regarde, il fait next. Tu vois, genre, il est tout le temps au taquet. Quelqu'un a parlé de Kurt Warner. Ouais, Ibu Kurt Warner. Kurt Warner, c'est pareil, je suis passé à côté. Oui, il avait l'air de répondre, il s'est esquivé assez vite. Il avait l'air assez pro. Mais c'est vrai que Sapp, c'était marrant parce qu'il y avait de la gouaille et il n'hésitait pas à te balancer quand il trouvait que la question était pourrie, il te le faisait savoir. Question suivante.
Alors, question de Kevin RBT. Bonjour, toute l'équipe de TDA. Que pensez-vous de Ben Roethlisberger? Fait-il partie du top 10? Et si oui, à quelle place le mettriez-vous?
Bah,
top 10, oui.
Oui, oui.
Moi, je trouve que c'est quand même un quarterback assez sous-coté parce qu'on en parle rarement quand on parle des meilleurs quarterbacks de la ligue. Alors qu'il a quand même un bras exceptionnel, il est solide, il a fait des super performances avec les Steelers.
C'est vrai qu'il fait partie des sous-cotés.
Enfin, on n'en parle pas, mais il sera au Hall of Fame à la fin de sa carrière, à mon avis.
Ouais, parce qu'il était tellement bien aidé en fait par les défenses
aussi,
quand il a gagné ses titres. Peut-être que maintenant on réalise pas ce que maintenant il fait justement à Pittsburgh.
C'est tous les ans en playoffs, mais ils sont passés pas loin des playoffs, alors que la défense a pas été bonne.
C'est vrai.
En saison.
Non, c'est vrai. C'est vrai que. Non, non, je suis assez d'accord, il est top 10 et il est plutôt bien. Par contre, Hall of Fame, je crois que tu as fait réagir. Hein.
Bah,
mais non, mais il peut continuer s'il va chercher une troisième
bague.
Je suis
pas hyper étonné qu'il aille au Hall of Fame.
S'il va chercher une troisième bague et qu'il ait continué à être aussi régulier et même à progresser dans les airs, non, il est très très bon. Ouais, il y a vraiment moyen. Jovin Hawks qui nous dit Pete Carroll a l'air cool comme ça. En vrai, ça donne quoi? Ça donne aussi ça, parce que c'est vrai qu'il est, il est plutôt cool. Et moi, ce qui me tuait avec Pete Carroll, et on le voit dans la vidéo que je fais sur les Dispo Media, il est même revenu répondre aux questions alors qu'il était descendu du podium. Enfin, il était assez relax. Et surtout, c'est incroyable de se dire que ce mec a 62 ans. En étant à côté de lui, j'arrivais pas à réaliser que ce type-là a 62 ans. Je sais pas à quoi il tourne, mais je veux la même chose. Parce que franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il en fait 10 de moins. Facilement. Question suivante. Caléus qui nous demande si vous deviez en citer une dans chaque catégorie, quelle serait l'équipe bonne cette année, mais en chute l'an prochain à la Texan Redskins cette année, et inversement, Raiders qui ont arraché 4 victoires, Chiefs qu'on attendait en mieux, mais pas si haut. Donc en gros, si j'ai bien compris, qui se casse la tronche l'an prochain? Donc Chiefs, Texans, Redskins cette année, donc qui était en playoff cette année, qui pourrait se... Je crois qu'on en avait déjà parlé à un fois en plus.
Ouais.
À part les Bengals, si Dalton s'écroule complètement par exemple, ouais. Ou s'il y a blessure de Dalton. Mais c'est très dur, on avait des belles équipes de playoff cette année. À moins
les Panthers se recassaient la gueule.
À moins que les Panthers soient les Redskins de cette année.
Ouais.
Bon, ça pourrait être aussi ça. Question suivante. Les Eagles, nous dit Paco NYJ. Chargers pour Mugilny.
Alors, question de McMahon69. La blessure au côte de Moreno n'est-elle pas finalement l'autre facteur X du match? Il n'a jamais semblé dedans et le premier plaquage appuyé l'a renvoyé sur le banc de Denver sans solution devant la pression des defensive ends de Seattle. Je pense pas.
Ça a pu jouer un peu, mais je pense pas que... Ouais, vu l'ampleur de la domination...
Ouais.
Welker, le chat noir des Super Bowls.
Ah, lui, là, par contre,
lui, il a un truc quand même. Hein.
Lui, par contre, ça peut commencer à se poser. Hein, parce que
il a quelque chose, trois défaites
en finale.
Non, mais pas chat noir, mais bon. Puis il fait encore le taf, je sais plus combien de réceptions. Mais
oui,
bon.
Il est pas mauvais. Hein.
Après, bon, voilà, pas de peau. Pour une fois, il a pas de drop.
Ouais.
Pour une fois, il a pas de drop. Krabs 63, c'était. Et puis qui nous disait pour Alain, qu'est-ce qui est le mieux des finales NBA ou un Super Bowl? Honnêtement, c'est hyper différent. Pour avoir fait les deux, c'est vraiment un autre rythme.
Il y en a un, c'est sur un match, et l'autre, c'est quand même...
C'est vraiment un autre rythme. Après, ce que j'ai peut-être préféré au niveau des finales NBA, c'est qu'il y avait un peu moins de monde. Je suis pas agoraphobe, mais c'est vrai que... Waouh, le Media Day, ce que je disais, c'est qu'il y a tellement de monde. Et puis en plus, là, comme on était dans une salle de basket au lieu d'être dans le stade, puisque d'habitude, le Media Day est dans le stade, il y avait tellement de monde que waouh, c'était voilà. Mais après les deux quoi, si tu me donnes n'importe lequel des deux, je suis heureux d'y aller, hein.
Alors, question de Area Code. Pensez-vous que si les 49ers s'étaient qualifiés pour le Super Bowl, on aurait pu avoir le même blowout face aux Broncos? Je pense que ouais, ça aurait pu se passer de la même manière.
Peut-être pas aussi fort, parce que la défense est pas aussi forte.
C'est vrai que les
leurs defensive backs sont pas du tout les mêmes.
Ouais, c'est vrai que c'est pas du même.
Non, je pense pas.
Mais j'aurais donné aussi les 49ers gagnants, mais bon, après ça engage.
Moi, ce que j'avais dit que les 49ers allaient au bout à la base, donc je les aurais donné gagnants aussi, mais pas aussi large. Question suivante, on va en prendre encore une ou deux et puis après on passera à la fin et on reprend après si vous voulez. Si vous voulez poser des questions sur New York, et puis on fera un petit bonus spécial qu'on mettra en téléchargement pour les questions New York. N'a-t-on pas surestimé les performances des Broncos cette saison? Le calendrier de ceux-ci était assez faible. Finir à 13-3 n'est pas non plus le bilan du siècle, surtout que les Broncos n'ont rencontré aucune grande défense durant la saison régulière. En comparaison, les Pats de 2007-2008 avaient joué les Steelers, Ravens, Giants. Pour Peyton, sa contre-performance du Super Bowl limited de la question du meilleur quarterback de l'histoire. Donc ça, on l'a déjà dit, Super Bowl. Bon. Donc c'était Tom Boonen. Est-ce qu'on les avait surestimés à cause de leur calendrier?
Surestimé, c'est peut-être un grand mot, mais...
Parce qu'il y a quand même surestimé, ils ont quand même statistiquement la meilleure attaque de l'histoire, donc il y a quand même quelque chose quelque part, et puis ça reste la NFL.
Je ne veux pas me vanter, mais dans les pronostics de la rédac, j'avais mis mot pour mot que le fait que les Broncos n'avaient pas rencontré de grosses défenses cette saison, ça allait se payer.
Alors voilà. Donc Raphaël, tu avais raison. Allez, la dernière.
Alors, hop. Question de iClos. L'AFC m'a semblé beaucoup plus faible cette année que les fois précédentes. Si vous êtes du même avis, pensez-vous que c'est dû au fait que beaucoup d'équipes qui tirent leur conférence vers le haut soient en transition, que les défenses majeures de la conférence aient vieilli?
Clairement, la NFC est plus forte aujourd'hui.
Ouais.
J'aime pas d'habitude faire de trucs comme ça sur les conférences, mais oui, clairement, il y a quelque chose en ce moment. C'est lié aux défenses et c'est lié aux équipes qui sont, un, plus jeunes, deux, mieux construites. Elles sont mieux construites.
Parce que ça vieillit beaucoup du côté de l'AFC quand tu regardes les équipes. Les Steelers qui étaient toujours là, la défense est vieille. Les Patriots,
il y a eu pas mal de problèmes. Il y a pas mal de fins de cycle dans l'AFC. Et puis surtout, encore une fois, les 49ers sont très bien construits, les Seahawks sont très bien construits. Et puis il y a quelques autres équipes. Les Saints sont très réguliers, les Eagles sont en train de se reconstruire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne dis pas de bêtises, les Panthers se reconstruisent aussi avec une grosse défense. Les Packers sont le meilleur quarterback de la Ligue, en tout cas, à mon avis, le meilleur quarterback de la Ligue. Donc, ça crée un déséquilibre actuellement.
Et ça pourrait un peu continuer, parce que quand tu regardes bien, du côté de l'AFC, les quarterbacks Manning, Brady, ils vont pas tarder à partir. Donc, ces équipes-là vont passer en transition, sauf si elles ont la chance de tout de suite choper un bon quarterback. Je pense que ça peut être compliqué pour l'AFC un peu dans les années à venir.
Ah oui, non, mais moi je suis persuadé aussi, je vois pas. Encore une fois, à part Andrew Luck et les Colts, où ça se reconstruit autour de lui.
Et ça construit pas si bien que ça, voilà. Je trouve.
La
draft cette année.
Ça a pas drafté des masses, la défense est toujours pas là.
Il y a pas de premier tour l'an prochain.
C'est ça, quand Robert Mathis part, il y a plus personne en défense. Voilà. Mais ils ont un quarterback, ça c'est hyper important quand même. Donc ils ont Luck. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça. Peut-être il faudrait que les Steelers reconstruisent un peu leur défense pour entourer Roethlisberger. Ça peut être pas mal parce qu'il a Antonio Brown et ils ont une base avec Le'Veon Bell qui a fait une belle saison aussi. Donc ça aurait été pas mal. J'annonce les Jaguars futurs de l'AFC, nous dit Niners. En tout cas, oui, ils peuvent commencer à.
Pourquoi pas hein, s'ils trouvent un bon quarterback de cette saison.
Ils peuvent commencer. Ils peuvent commencer. Vous nous demandez tous des pronos pour le prochain Super Bowl. Ça tombe bien, c'est juste après ça. And the ambiance when they will leave here. But these words live on till they keep on making these songs. So put them on. Just hit seven different receivers and that hurts. What a catch! Touchdown! Unbelievable! Jermaine Kearse. Michael Moore encore une fois, mais avec Victory Lap, forcément. On était obligé de mettre ce titre. Je vois quelqu'un qui parle de Andy Dalton. Juste une petite anecdote. La NFL nous a fait quelques cadeaux presse aux journalistes et dedans il y avait un pack d'images Panini. Et bah figurez-vous que j'avais Andy Dalton dedans. Ils ont pensé à moi. C'est quand même sympa. On finit donc avec la dernière partie de l'émission et on va d'abord faire un petit top flop, mais de la saison. Cette fois, Raphaël, ton top de la saison.
Top de la saison, bah les Seahawks, ouais, la défense des Seahawks, surtout la défense en fait, la défense des Seahawks, qui m'a vraiment impressionné toute la saison, encaisser que 7 points face aux Saints de Drew Brees, laisser les Giants à 0, enfin, plein de grosses performances.
Alors moi, ce serait plutôt les Eagles, parce que je pensais pas que ça se reconstruirait comme ça, en tout cas que Chip Kelly apporterait un souffle comme ça. Et donc il y a peut-être quelque chose qui se crée, voilà, je sais pas, je vais pas garantir, je sais pas, ça se trouve là, ils se recasseront la binette l'année prochaine, mais j'ai trouvé ça plutôt encourageant, donc j'avais envie de les encourager, de leur donner un top de cette année. On a des tops Rob Ryan, Russell Wilson, les Chargers, Philip Rivers, la veste de John Amat encore en flop pour Jovin Hawks, le niveau de la NFC West, Seattle ou la défense ou l'attaque de Denver, les Lions en flop, Shanna, les Redskins en flop, donc les flops pour toi ce sera
Lions. L'équipe, beaucoup trop de talent pour faire ce qu'ils ont fait.
C'est vrai.
Blessure de Rodgers, blessure de Cutler et même pas terminer premier.
Les Ravens, pour moi, c'est la deuxième fois en deux ans que le champion manque les playoffs. Et voilà, ils n'ont jamais su retrouver un souffle, on l'a attendu toute la saison. Et il n'y a jamais vraiment eu un truc qui s'est créé autour de cette équipe, donc c'était assez décevant. Les pronostics, pour terminer, les pronostics, c'est l'heure de nous donner le résultat final.
Oui.
Camille, tu peux y aller?
Eh bien, pas de surprise, ça
fera... Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
Ça fera 185 points pour Raphaël, 170 pour Alain, qui avait pronostiqué les bons
104, ah bah oui, il prend 10 sur le dernier, Alors, est-ce que tu as les résultats en sans les coefficients, juste le nombre de matchs pronostiqués ou pas?
Ouais, mais je sais pas.
Bon, c'est pas grave, t'en fais pas. Bon, donc j'ai perdu pour les pronostics, donc mon gage sera d'aller faire des high-fives dans Paris avec un maillot de Tom Brady, c'est ça?
Ouais, je pense qu'on va rester là-dessus.
Je pense qu'on reste là-dessus, ça me paraît pas mal.
Plus simple, pas trop méchant.
Ça vous va comme gage, les gens sur le chat? High five. Bon, je crois qu'il y a des gens qui réclament ça. La danse de Lynch avec des bons, c'est quoi sa danse?
Pour la parade, peut-être.
Je sais pas. Des high five avec une moumoute type Namat. C'est dur, ça va, mais faut la trouver.
Ouais, ça va pas être facile.
Faut la trouver. Mais sans parler aux gens, sinon ça... Ah oui, non, sans parler aux gens. Et est-ce qu'on oublie la chanson Football on Your Phone, nous dit Jérém. Moi, en tout cas, je l'oublie jamais. Non, c'est Skittles sur Paris. On verra si on peut la faire, mais il faut d'abord convaincre Raphaël. Et je vous avoue que au début du match, j'étais confiant pour les Broncos et je me disais, s'ils gagnent, je vais réussir à convaincre Raphaël parce que du coup, Manning sera la star de l'intersaison et en plus, il aura perdu les pronostics, je pourrais le forcer, tu vois. Mais du coup,
ça va être compliqué.
Ça va être dur. Hein. Bon, on passe à la saison prochaine. Fais-la avec Camille si Raph veut pas rappeler, sinon... lui propose la mouche. Bah ouais, mais bon, faut que tu sois là quand même, qu'on la fasse tous les trois. tu vas pas nous regarder. On a vu Eli une seule fois. Rien que pour les performances d'Eli Manning, on devrait forcer Raphaël à le faire, non?
Rien à voir.
Non? Oh là là. Bon, allez, on se tourne vers la saison prochaine rapidement. Combien de matchs de play-off gagnés au total par le champion sortant depuis 2005 selon toi?
Depuis 2005? Zéro?
Zéro. Les Patriots sont les derniers champions sortants à avoir gagné un match de playoff. Ouais. J'espère que je ne dis pas une grosse bêtise.
Non, c'est pas possible.
Bah écoute.
Bah, les Giants, quand ils le gagnent deux fois depuis 2005, le Super Bowl.
L'année suivante, le titre.
Ah, l'année suivante, d'accord. C'est pour ça que je ne comprenais vraiment pas. Ah oui, bah oui, d'accord.
L'année suivante, le titre. Bon, zéro. Depuis 2005, aucun match gagné. C'était les Patriots, les derniers, qui gagnent un match. J'espère que je ne dis pas une bêtise sur l'année. C'est 2005 que c'est les Patriots, les derniers, à l'avoir fait. Voilà, à gagner un match de playoff derrière le titre. Ah, ouais. Donc, Seattle, repeat ou pas? Est-ce qu'ils vont briser le signe?
Écoute, là, à un an du prochain Super Bowl, je vais dire oui pour le moment. Je vais dire repeat, mais bon. On va voir comment l'intersaison se passe de chaque côté.
Moi, je les vois mal rater les playoffs. Ça, c'est clair. Ouais, ça fait deux ans de suite que le champion rate les playoffs. Je les vois vraiment mal rater les playoffs. Mm. Vu comment ils sont construits et vu comment ils sont forts. Même s'il y a quelques joueurs free agent, je vois pas comment ils les ratent. Alors, repeat ou pas, là c'est différent, ça dépend comment ils jouent la saison, ça dépend s'ils sont à domicile ou pas pendant les playoffs, ça dépend des blessures, parce que ça peut toujours être un gros truc, vraiment un facteur imprévisible, donc ça voilà, bon ça va être difficile à voir, mais donc pronostic prématuré pour l'année prochaine, Super Bowl.
L'affiche,
ouais.
On donne l'affiche.
Ouais.
Bon allez, côté AFC, prématuré, Broncos. Côté AFC.
Bon cause encore.
Bah écoute, en AFC, moi je vois pas beaucoup d'équipes très...
Steelers, Seahawks, Broncos, Seattle. Alors,
Broncos,
qu'est-ce qu'on a d'autre?
Broncos, NFC.
Packers, Broncos.
NFC, allez, Broncos, Seahawks, un an, je refais le même la même affiche.
La même. Ravens, Seahawks, Seahawks, Patriots, Seattle, Seahawks, Steelers. Et alors moi, justement, là, je viens de voir le nom passer. Colts, Packers.
Colts
Packers, meilleur quarterback de la NFC contre futur meilleur quarterback de la AFC.
Ouais.
Jaguars Lions, nous dit Ibou.
Ouais.
Colts Seahawks.
Tu as dit, il devrait le tenter à Las Vegas.
Celui-là, il faut le tenter à Las Vegas.
À un an du Super Bowl, prévoir ça comme.
Celui-là, il faut le tenter à Las Vegas. On va finir avec le 2 minute drill. C'est parti, messieurs, dames. Ron Rivera est pour les playoffs à 14 équipes. Tu penses que la Ligue va réussir à poser ça dès l'année prochaine?
Je pense pas l'an prochain, mais malheureusement, ça semble acquis là quand même. Le proprio des Rams a acheté un terrain à Los Angeles, mais il promet que ce n'est pas pour construire un stade, tu le crois?
Je crois que c'est pas pour construire un stade, c'est pour faire pression sur Saint-Louis, pour avoir un nouveau stade à Saint-Louis. Un stade de MLS peut-être, ouais, dit Camille. Golden Tate assure qu'il est prêt à toucher moins pour rester à Seattle. Tu penses qu'il reste? Ils disent tout ça.
Pas sûr, ouais. Classe ou pas la veste moumoute de John Amas au moment du tirage au sort?
En fait, je trouvais ça super classe parce que c'est marrant. Par contre, j'espère juste que c'était de la fausse fourrure. Voilà, c'est le seul truc. L'image la plus étrange de la semaine, John Schneider torse nu ou Jaren Lorenzen qui joue quarterback à 145 kilos?
Ah bah Lorenzen, c'est un ancien de la maison Giants, alors Lorenzen. Aaron Rodgers pense que c'est impossible d'atteindre le niveau de la défense des Seahawks. Est-ce qu'il a raison?
Bah là, ouais, ça va être difficile pour actuellement. Et puis enfin, le meilleur tweet de la soirée de dimanche, Eli Manning qui enlève son masque de Peyton en criant « Surprise !» ou Pornhub qui explique que le match ne serait pas autorisé sur son site parce que c'était un viol.
Pornhub.
C'était énorme. Ah ouais. C'était franchement énorme. Le tweet qui a tourné le plus pendant toute la soirée. Voilà, comme c'est comme ça que se termine le podcast Journal Actu, épisode numéro 76, et donc le dernier podcast de la saison. Merci à tous de nous avoir suivis, et comme c'est la fin de saison, je vais en profiter pour passer quelques remerciements. D'abord, merci à toi Raphaël, et merci à toi Camille, à vous deux pour cette saison. Merci aussi à Raoul Villeroy qui ne pouvait pas être avec nous, mais avec qui on dit coucou, donc merci à vous trois. Sans vous, il n'y a pas de Touchdown Actu podcast. Merci à toute l'équipe des rédacteurs du site, on va tous les citer: Nelson Kenyar, Pierre Chambaud, Raoul Villeroy aussi puisqu'il écrit aussi, Kevin Renaudet, Jean Belvez, Nicolas Meichel, Axel Perrichet, Thomas Silva, Lucas Vola, Johan Deveau, Maxime Dubois, Jérémy Chopard, Benoît Jamais, Clément Orion, et oui, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur le site, Romain Terrasse, notre graphiste aussi qu'on n'oublie pas et qu'on remercie pour tous qu'il a fait. Merci à tous parce que ça marcherait pas sans vous. Merci à vous qui nous lisez, merci à vous sur le chat, merci à vous sur le forum, merci à vous qui nous écoutez. On sait pas encore comment ça se passe pour la suite, on vous tient au courant au niveau de tout ça, du podcast pour sur le site, on vous donnera toutes les infos. En attendant, comme d'habitude, toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touchdownactu.com. À venir cette saison, pendant l'intersaison, la couverture de la free agency, la couverture de la draft, plein de choses. Très bonne intersaison à tous. On se quitte forcément avec du son de Seattle. Bonne intersaison à tous. Ciao ciao. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't. You, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.